Il est 8h.
On nous punit de vivre, on nous empêche de vivre notre jeunesse à fond. C'est plutôt injuste en fait.
Injuste ou nécessaire, le couvre-feu va s'abattre dès ce week-end sur 20 millions de Français. Une sorte de reconfinement nocturne à l'épreuve des comportements individuels. Les dîners limités à 6 personnes, mais vous l'entendrez, des étudiants tenter de prolonger leur soirée jusqu'à 6h du matin. Les restaurateurs dénoncent déjà une fermeture déguisée de leur profession. On entendra le coup de gueule du chef cuisinier Olivier Rollinger, tandis que dans le monde culturel, on envisage des concerts symphoniques en fin d'après-midi. Dans ce journal, les syndicats de policiers reçus ce matin à l'Elysée, en présence d'Éric Dupond-Moretti. Et puis pas de saison 6 du Bureau des Légendes, mais une série dérivée dont les détails sont pour l'instant de l'ordre du secret défense.
Le couvre-feu, l'impact économique, la nouvelle phase de lutte contre le Covid, mais aussi le malaise chez les policiers reçus donc par le président. L'ancienne garde des Sceaux, maire du 7e arrondissement de la capitale, Rachida Dati, au micro de Sonia Mabrouk à 8h15. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Cette fois, il n'a pas parlé de guerre, mais le vocabulaire reste martial. La nouvelle bataille, la stratégie qui doit monter en puissance et bien sûr, le couvre-feu nécessaire pour 30% de la population française. Alors que les chiffres continuent de se dégrader, 33 000 morts dans le pays depuis février, une centaine de plus hier et un tiers des lits de réanimation déjà occupés par des patients Covid.
Au-delà des mesures restrictives annoncées par le président de la République, on est frappé par son appel plus fort encore que d'habitude à la solidarité et donc à la responsabilité.
Freiner le virus, c'est aussi protéger ma santé. Parce que si je ne le freine pas, demain, si j'ai autre chose, ma mère, mon père, ma sœur a autre chose, il n'y aura plus de place pour le soigner.
Emmanuel Macron, hier soir sur TF1 et France 2, on va détailler les conséquences du couvre-feu dans un instant. Mais d'abord, Anne Le Gall, à l'échelle de tout le pays, le président appelle chacun à faire un effort dans son environnement privé.
Oui, alors évidemment, ces consignes ne vont pas figurer dans les décrets et les règlements, mais si durant les vacances, on veut se rassembler en famille, en présence d'une personne âgée ou fragile, alors il faudra porter un masque ou se tenir à distance. Les gestes d'affection sans aucune précaution ne sont plus adaptés à l'époque que nous vivons, a expliqué Emmanuel Macron. De façon générale, le port du masque, même avec les proches, l'aération des pièces 3 fois par jour ou encore le respect de la règle des 6 convives à table au maximum quand on reçoit du monde, ce sont les nouveaux réflexes à acquérir au quotidien, a indiqué le chef de l'État. Car même si ces fêtes privées ou ces repas de famille ne durent qu'une heure ou deux, ils sont à l'origine d'un quart des clusters. Le Covid est un virus de la convivialité, notamment chez les plus jeunes, expliquent les épidémiologistes. Et c'est pour cela que pendant quelques temps, il va falloir que tout le monde accepte de se voir en plus petit comité.
Les précisions d'Anne Le Gall pour Europe 1.
Je cite les documents officiels, le couvre-feu va donc commencer samedi à 0h, autrement dit vendredi soir minuit.
À Lille, Grenoble, Lyon, Montpellier, Rouen, Toulouse, Saint-Étienne et Aix-Marseille, ainsi qu'en Île-de-France, chaque soir, de 21h à 6h, et ce pendant 4 semaines, le Parlement sera sollicité pour le prolonger jusqu'au 1er décembre. Retour des amendes de 135 €, retour aussi des attestations dérogatoires de déplacement.
Le président l'a dit, c'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Il faut dire que les jeunes font partie des publics ciblés par cette mesure.
Mais ce ne sera pas simple à respecter, comme on va le voir avec ce reportage de Romain Oquet à la Cité universitaire de Paris.
Je ne vais pas rester seule chez moi tous les soirs. Je suis fatiguée, j'en ai un peu marre. Quoi.
Le couvre-feu, Anna ne peut même pas l'envisager. Une fenêtre, un lit, un bureau, sa chambre d'étudiante, elle y a déjà passé le confinement.
Cet appartement, il fait quoi en surface à peu près?
14 mètres carrés, je crois. On habite loin de chez nous. Dans notre petite chambre, on est tout seul. Alors c'est plus possible, quoi. On a besoin de parler, on a besoin de s'amuser, on a besoin de changer les idées.
À la résidence, le chacun chez soi n'existe pas. Camille nous fait visiter la cuisine commune, qui même à 22h se remplit d'étudiants affamés.
Là, juste en 2 minutes, on a déjà rencontré 4 personnes qui sont venues dans la cuisine sans masque.
Dans le couloir, des dizaines de portes d'appartements. Derrière certaines, les voisins se retrouvent. Camille temporise. Selon elle, le couvre-feu risque justement d'encourager ces soirées.
Nous donner plus de restrictions, on se retrouvera encore plus dans le privé chez nous. Dans un 15 mètres carrés, si c'est pour avoir 20 personnes, on le fera. Il n'y a jamais personne qui va venir vérifier si on respecte bien tout ça.
Et c'est pour ça que Camille a maintenu son invitation. Une dizaine d'amis conviés chez elle samedi soir.
Les soirées privées donc, les étudiants et bien sûr, les restaurants, eux aussi, vont être très touchés par ce couvre-feu.
Et je voudrais vous faire écouter ce cri du cœur du grand chef cuisinier Olivier Rollinger. C'était ce matin, sur Europe 1, un peu plus tôt, au micro de Sébastien Krebs.
C'est un coup de grâce pour l'ensemble de la profession. Ce n'est pas une fermeture, cette fois, obligatoire, mais c'est en réalité une fermeture obligée ou contrainte. Une fois de plus, la profession sert de marqueur politique du tournevis à donner dans une contrainte.
Il ne sera pas possible pour les restaurants, par exemple, de faire dîner les clients aux alentours de 19h ?
Tous les gens ne sont pas en vacances et en retraite. Les gens aussi, ils ont un travail, ils ont une vie sociale, ils ont leurs enfants à aller chercher. La vie fait que on ne va pas tous nous lever à 6h, aller au travail à 7h, et ensuite aller dîner à 18h. Je veux dire que ce que vont faire les gens, plutôt que d'aller au restaurant dans des lieux parfaitement encadrés, ils vont aller dîner et coucher les uns chez les autres. Monsieur le Président, vous avez salué la prise en charge de l'ensemble des cuisiniers et des cuisinières de France. Mais laissez-nous travailler.
Le chef Olivier Rollinger, qui était l'invité d'Europe 1 à 6h40.
Pour les restaurateurs et toutes les professions touchées, Emmanuel Macron évoque de nouvelles aides qui seront annoncées sous peu, en plus du chômage partiel pris en charge à 100% par l'État. On en saura peut-être un peu plus tout à l'heure à 14h, conférence de presse de Jean Castex et de plusieurs de ses ministres. Pour les particuliers qui touchent des APL ou le RSA, une aide de 150 euros est prévue, plus 100 euros par enfant.
Il ne faudrait pas oublier le monde du sport. Les matchs professionnels pourront avoir lieu, mais à huis clos, ainsi que le secteur de la culture.
Mais oui, pas de séance de ciné, pas de représentation au théâtre ou de concert en soirée dans les zones du couvre-feu. Il va falloir innover, comme y réfléchit le directeur de la Philharmonie de Paris, Laurent Bell.
21h, c'est très problématique parce que c'est pas 21h la fin du spectacle, c'est 21h, imaginez que le public soit chez lui. Si nous pouvons conserver certains concerts à 18h30, est-ce que le public sur Paris peut suivre cette offre? Je n'en suis pas sûr. Et puis, nous essayerions de voir comment le week-end en journée, nous pourrions réorganiser la programmation pour assurer peut-être plusieurs concerts par jour en journée, le samedi et le dimanche.
Laurent Bell avec Angèle Châtelier pour Europe 1. Dernière annonce, l'application Stop Covid, dont une nouvelle version enrichie en informations sur le virus, sortira dans une semaine, s'appellera Tous Anti-Covid.
8h07 sur Europe 1, une information Europe 1 ce matin. Le mode de transport qui a le plus progressé depuis le confinement, c'est la marche à pied.
Oui, plus 200% selon des millions de données compilées par l'entreprise Kizio. En revanche, tout mode de transport confondu, les déplacements sont en baisse de 15%. Aux États-Unis ce soir, concurrence de chaînes de télé. Donald Trump sera sur NBC, Joe Biden sur ABC. Ils répondront à des électeurs en direct à la même heure, mais chacun de son côté. Le débat prévu ayant été annulé, ce sera à qui fait la meilleure audience.
Vous restez avec nous sur Europe 1 dans un tout petit instant. Des policiers à l'Elysée reçus par Emmanuel Macron.
Et puis vous connaissez la musique, le bureau des légendes, des espions dans votre salon. Cette série n'a pas complètement refermé ses portes.
A tout de suite, il est 8h08.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h09, la suite du journal, François Geffrier.
Trois attaques en une seule semaine, deux policiers grièvement blessés par balle à Herblay, un autre renversé par une voiture à Savigny-sur-Orge et des feux d'artifice projetés contre le commissariat de Champigny-sur-Marne. Voilà pour le contexte grave de la rencontre ce matin entre les syndicats de policiers et Emmanuel Macron.
Guillaume Bihel, le ministre de l'Intérieur, mais aussi celui de la Justice seront présents à l'Elysée.
Oui, Éric Dupond-Moretti sera bien là tout à l'heure aux côtés du chef de l'État. Alors ce n'est pas un invité surprise, hein, c'est au contraire le cœur du sujet, car en fait, les représentants des syndicats de police qui réclamaient des moyens, effectifs, matériels, primes, ont eu largement gain de cause avant-hier auprès du ministre de l'Intérieur. S'ils sont reçus à l'Élysée, c'est pour aller au-delà, pour obtenir le soutien ferme du président et surtout évoquer la réponse pénale apportée aux agressions contre les forces de l'ordre. Les peines encourues sont déjà lourdes, mais les condamnations prononcées ne sont pas assez dissuasives aux yeux des syndicats de police, d'où la présence ce matin du ministre de la Justice, qui recevra lui aussi les syndicalistes policiers à la chancellerie dans quelques jours, preuve d'une volonté d'ouverture et un vrai paradoxe pour Éric Dupond-Moretti, qui va donc nouer le dialogue avec les syndicats de police au moment où les syndicats de magistrats, eux, lui tournent quasiment tous le dos.
Oui, Guillaume Bihel du service police-justice d'Europe 1.
Dans l'affaire de la disparition d'Estelle Mouzin, la juge d'instruction Sabine Kerris organise aujourd'hui un déplacement sur les lieux.
À Guermantes, en Seine-et-Marne, 17 ans après les faits, ce sera à la tombée de la nuit ce soir en présence de Monique Olivier et surtout de Michel Fourniret, qui a reconnu, je cite, avoir ôté la vie de la petite fille qui avait 9 ans en 2003.
On termine ce journal avec une nouvelle qui réjouira les fans du Bureau des Légendes.
Éric Rochant, son créateur, a confirmé hier que tout n'était pas terminé pour cette série d'espionnage. Mathieu Charrier.
Il n'y aura pas de saison 6 du Bureau des Légendes. Éric Rochant l'avait laissé entendre en avril dernier au moment de la diffusion de la saison 5. Il l'a confirmé hier lors d'une masterclass au festival Cannes Série. En revanche, et c'est la bonne nouvelle, un spin-off ou reboot est en cours d'écriture, c'est-à-dire une série dérivée de l'univers que l'on connaît, dans l'esprit et la philosophie du Bureau des légendes, précise le showrunner, avec même les personnages du Bureau des légendes. Ce qui laisse entendre que Malotru, incarné par Mathieu Kassovitz, serait de la partie. Joint hier soir, l'acteur préfère rester mystérieux.
Je n'ai aucune nouvelle.
Vous n'êtes pas reparti sur une aventure ou...
Il faut écouter ce que dit Eric.
Ce qui est certain, c'est que ce n'est pas Jacques Audiard qui planche sur ce projet, le réalisateur très contesté des deux derniers épisodes de la saison 5, mais une autre équipe est au travail, confirme Eric Rochant.
Mathieu Charrier en football, 2-1 pour les Bleus hier soir contre la Croatie en Ligue des Nations grâce à Griezmann et Mbappé. Le capitaine Hugo Lloris le dit, je crois qu'il y a une mentalité de gagnant dans cette équipe de France.
Merci François Geffrier, c'était le journal de 8h sur Europe 1.